Le journal des idées, Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Le salon de la revue ouvre ses portes dès ce soir à l'espace des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement de Paris. Et France Culture en est partenaire. Et aujourd'hui donc place aux revues, mais pas n'importe lesquelles Jacques.
Et oui, et pour célébrer l'aspect convivial de la manifestation, comme de l'esprit d'ailleurs qui anime leurs équipes souvent, ces revues, je vais vous faire une chronique consacrée aux Agapes, la 8e livraison de la revue 180 degrés, gastronomique et culturelle. Revient aux fondamentaux, le poème de Joseph Berchou, au titre jusqu'alors inédit de Gastronomie. En francisant un terme grec, le poète parodique lui donne droit de citer dans le dictionnaire, 25 ans avant que Brillat Savarin, dans sa Physiologie du goût, édicte en une sorte de code les lois de l'estomac, puisque tel est le sens littéral du mot gastronomie. Mathias Hénard raconte, quant à lui, l'épopée de la morue, le poisson des pauvres, devenu depuis la ruée vers l'or blanc des terres Neva, une espèce menacée. Le cabillaud, lumineux et pélagique, dont la chair ferme se sépare en pétales, et selon lui, l'un des poissons les plus littéraires qui soit. La blanche morue s'effeuille comme un livre, séché ou salé. Elle fabrique ses parfums, puisqu'on sait aujourd'hui, François Angelier... On sait aujourd'hui que ces méthodes de conservation décuplent les arômes. Alphonse Daudet instaura un dîner de brandade au café Voltaire. Émile Zola en raffolait. Morue au courbouillon, montée à l'huile d'olive, dressée en rocher, ajoute Alexandre Dumas, avec des rondelles de truffes et des huîtres frites. On pourra aussi faire son panier de saison à l'heure où la brise éloigne les souvenirs de l'été. Girolles et navets, l'oignon rouge, rassé sans être fier, fort et doux à la fois, le chou frisé, modeste et talentueux, pamplemousse et noix fraîches, à chacun sa recette.
Quelle délice cette évocation de la morue à 6h43. Merci Jacques, vous commencez très tôt à nous ouvrir l'appétit. Et c'est pas fini parce que vous nous parlez aussi ce matin du dictionnaire littéraire et érotique des fruits et légumes.
Oui, des poires et des figues, des coings, des olives, des artichauts. Alors Jean-Luc Hennig nous promène dans son jardin avec sa petite touche personnelle. Il n'est jamais inutile d'interroger le désir que nous pouvons avoir à caresser une poire, à déshabiller un bulbe de fenouil, à écraser des noix dans la salade, à chiffonner l'oseille, ou
François
à mordre...
François Angelier tourne de l'œil.
Oui, non, là, c'est trop.
Ou à mordre dans le cul d'un artichaut.
Ah Le cri de l'artichaut.
Lequel, là, d'ailleurs, dans le foin, c'est l'un des légumes qui fait le plus mystère de son intimité sous le velours satiné de sa barbe nacrée, de l'abricot au vert coquin, de la grappe, en passant par l'ail sentimental, le cri de la cerise ou les amours cachés de la figue. Ce dictionnaire explore le langage, l'imaginaire et les figures littéraires des végétaux comestibles. Par où l'olive passe-t-elle pour arriver ainsi au violet noirâtre et au noir profond? C'est la Verdale de Provence et du Languedoc qui nous donne la réponse, en virant au rose couleur de peau, dédaignant le spectre des couleurs de Newton qui indique le bleu et l'indigo entre le vert et le violet. La poire qui sent la pluie, la feuille morte et la fourmi, à la chair granuleuse ou tendre, acide ou succulente, se faisant comme du gibier. Que de sobriquets, de caricatures, d'insultes n'a-t-elle inspiré? Depuis la nuit des temps civilisés, elle est le fruit des désordres amoureux, comme en témoigne l'image des Vénus préhistoriques, au ventre sphérique et aux fesses proéminentes, jusqu'à Zola et son saphique baiser de la poire dans Nana. Quant au coin, les mille et une nuits le crédite de tous les goûts qu'aiment les hommes, il rappelle subtil le vin, le parfum du vin, puis aussi un peu celui du musc, sa couleur est sable mélangé d'or, disque de lune dans son entier. Une bulle rose tendre, c'est le cerdon, curiosité parmi les vins français, que nous fait découvrir la revue Le Rouge et le Blanc. Son faible taux d'alcool le place dans l'air du temps, sa méthode ancestrale de fermentation l'ancre loin dans le passé. Le village et son vignoble, enchâssé dans les vallées du Jura méridional, produit un breuvage déjà apprécié au XVIe siècle par Marguerite d'Autriche, princesse de Bourgogne, duchesse, les archives en attestent, duchesse de Savoie et future infante d'Espagne, des liens de la généalogie royale et des vieilles vignes.
La table fait recette, comme on peut le voir dans l'ouvrage illustré de photos historiques et dirigé par Laurent Stefanini à la table des diplomates.
Oui, c'est l'histoire de France racontée à travers ces grands repas, un angle savoureux pour parcourir des siècles de relations internationales. Historiens et grands chefs aussi commentent, à déguster en particulier la visite officielle de Churchill le 11 novembre 1944. Mais l'histoire retiendra davantage ses larmes devant la tombe du soldat inconnu.
Et enfin, on termine avec la revue Citrus qui sera présente au salon de la revue. Le thème de son dernier numéro, c'est manger, Jacques.
Oui, sucrer les fraises, avoir du sang de navet, long comme un jour sans pain, tuer un âne à coups de figue, les expressions alimentaires en disent long sur la place de la table dans nos usages. Je recommande d'ailleurs l'anthologie des repas de cinéma par Antoine Debecq dans cette livraison.